Il est 20h30 à Paris, 18h30 à Bamako.
Afrique Soir.
Et c'est avec vous, Nemo Ampis. Bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Du cyclisme à la une de ce journal, direction l'Italie pour la dernière étape transalpine du Tour de France 2024. Et c'est Binyam Girmay, le coureur érythréen, qui s'impose aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Thomas de Saint-Léger dans un instant. Mohamed Oulcher El Razouani, réélu à la tête de la Mauritanie. La commission électorale a officialisé et confirmé les résultats provisoires publiés hier. Le chef de l'État sortant est crédité d'un peu plus de 56% des voix. Un coming out qui fait parler au Cameroun. La fille du président Paul Biya, Brenda Biya, s'est montrée sur ses réseaux sociaux, embrassant une autre femme, de quoi faire parler dans ce pays où l'homosexualité est réprimée. Ce sera notre dossier du soir. Et puis, la République démocratique du Congo qui pleure le dernier survivant de l'African Jazz, l'orchestre auteur du tube Indépendance Tcha-Tcha devenu l'hymne des indépendances en Afrique. Pierre Yantula Elengesa s'est éteint samedi à l'âge de 83 ans, à la veille donc de l'indépendance de la RDC. Jour de gloire pour l'Afrique sur le Tour de France. Pour la première fois, un coureur noir a levé les bras sur la grande boucle. L'érythréen Binyam Girmay s'est imposé à Turin sur la troisième étape et avec la manière au sprint devant les hommes les plus rapides du peloton. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Nemo.
Vous étiez aux premières loges sur la ligne d'arrivée. C'est un petit moment d'histoire du sport qui s'est écrit tout à l'heure.
Oui, on a senti une grande clameur d'abord quand on a vu Binyam Girmay se faufiler sur la droite de la route, le long des barrières, appuyer le plus fort possible sur ses pédales à 70 km/h pour doubler tout le monde et remporter cette victoire. Historique, oui, ne banalisons pas, c'est la 111e édition du Tour de France cette année. C'est la première fois qu'un coureur noir gagne sur la plus grande course du monde. Il faut aussi voir d'où vient Binyam Girmay. On vous en parle depuis longtemps maintenant sur RFI. Il fait partie des très bons sprinteurs du peloton. Il avait par exemple gagné il y a 2 ans une grande classique belge et une étape du Giro. Décidément, l'Italie lui réussit. C'est aussi un garçon qui vient de très loin, l'Érythrée, pays passionné de cyclisme, c'est vrai, mais pour lui, comme pour tous ceux qui ont ouvert la voie ces 10 dernières années, Tekla Imanot, Koudous, à qui il a rendu hommage, d'ailleurs pour eux, tout est plus difficile, le matériel, les visas, l'adaptation à la vie européenne, c'est un parcours du combattant, de grand combattant, lui et de cette trempe, assurément. D'ailleurs, dis-moi qui tu bats, je te dirai ce que tu vaux, il a dominé les meilleurs à la régulière, tout le monde l'a vu, l'a salué, c'est vrai, cette victoire est un vent de fraîcheur pour un peloton très occidental, mais Binyam, lui, n'est plus depuis longtemps une exception. Il est un concurrent comme un autre, un peu plus fort que les autres aujourd'hui.
Et c'est Richard Carapaz qui endosse le maillot jaune ce soir. Merci Thomas de Saint-Léger, envoyé spécial d'RFI sur ce Tour de France 2024. En Mauritanie, 2 jours après la présidentielle, la commission électorale a officialisé et confirmé les résultats provisoires déjà publiés hier. 7 candidats étaient en lice et c'est le chef de l'État sortant, Mohamed Oulcher El Razouani, qui était réélu avec un peu plus de 56% des suffrages exprimés. La participation s'élève, elle, à 55,39% toujours selon la CENI. À Nouakchott, les précisions de Léa Breuil.
La commission électorale vient tout juste de l'annoncer. Le président sortant, Mohamed Oulcher Razouani, est réélu pour un second mandat à la tête du pays. Avec un peu plus de 56% des voix selon les résultats provisoires après le dépouillement de tous les bulletins, l'actuel chef d'État obtient la majorité absolue dès le premier tour. L'opposant Biramna Abed, lui, arrive en seconde position, comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22% des voix contre 19% en 2019. Il a déclaré hier lors d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale qu'il accuse d'être instruite mentalisé par le pouvoir et dénonce une fraude électorale. De son côté, le candidat islamiste du Tawassul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Hamadi Oulsid El Mokhtar, se classe 3e avec légèrement moins de 13% des voix. Les autres candidats ne réalisent eux que des scores en dessous de 4%. L'avocat Elid Mohamedine est 4e avec 3,5% des voix, suivi du candidat de la JDMR Mamadou Bokar Ba et du professeur Outouma Soumaré. Enfin, Mohamed Lemine El Ouavi, ancien candidat à la présidentielle, ne dépasse pas les 1%. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
L'actualité en bref au Bénin. Le président Patrice Talon a reçu deux de ses prédécesseurs ce lundi. Rien n'a filtré de cet entretien avec Boni Yayi et Nissé Forsoglo, qui ont pris l'initiative d'une médiation pour tenter d'apaiser les tensions avec le Niger voisin. Ils ont notamment rencontré la semaine dernière à Niamey le général Abdourahmane Tchiani, nouvel homme fort du Niger, qui a renversé l'ancien président Mohamed Bazoum il y a un peu moins d'un an. Au Nigeria, 32 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attentats suicides perpétrés par des femmes kamikazes. Cela s'est passé ce week-end dans la ville de Gwoza, dans le nord-est du pays. Un nouveau bilan dévoilé ce lundi par le vice-président Kashim Shettima. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
C'est un mode opératoire qui rappelle celui employé par le groupe Boko Haram au plus fort de l'insurrection djihadiste qui ravage l'état de Borno depuis plus de 12 ans.
La première explosion a eu lieu en plein cœur d'un mariage et selon des témoins, c'est une femme qui portait un enfant sur son dos qui a déclenché sa ceinture d'explosifs au milieu des invités. Alors que les prières funéraires pour les victimes de cette première attaque étaient en cours, une autre femme kamikaze a déclenché un engin explosif dans la foule, faisant de nombreuses victimes. Une troisième explosion a retenti près de l'hôpital général de la ville de Gwoza, déclenchée cette fois par une adolescente. Et un quatrième attentat suicide a pris pour cible un poste de sécurité de l'armée nigériane. Le bilan ce lundi est de 32 morts et plus d'une quarantaine de blessés, alors que les autorités annonce avoir arrêté deux autres femmes qui ne seraient pas passées à l'acte. Cette série d'attaques sanglantes rappelle les pires heures de l'insurrection djihadiste dans le Borno. L'utilisation de filles et de femmes pour conduire des attentats suicides était alors courante. Mais ce mode opératoire s'est fait beaucoup plus rare ces dernières années. Le président nigérian Bola Tinubu a condamné un acte de terreur désespéré et il a estimé qu'il s'agit d'un épisode isolé.
Lisa Fabian, bilan alourdi également au Kenya. La semaine dernière a été mouvement dans le pays, marqué par des manifestations anti-gouvernementales réprimées dans le sang. Des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé après le vote du projet de loi de finances mardi. Un texte finalement retiré le lendemain par le président William Ruto. Ce soir, dans un communiqué de la Commission nationale sur les droits humains, le vice-président annonce la mort de 39 personnes. 361 autres ont également été blessées. L'est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à la violence. Hier soir, un convoi humanitaire a été attaqué dans la province du Nord Kivu. Attaque sur fond d'affrontements nourris entre rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et forces gouvernementales. C'est un convoi de l'ONG britannique Tearfund qui a été attaqué. Selon elle, deux de ses membres sont portés disparus. Le convoi quittait une zone de combat pour se diriger vers le nord, ont indiqué des sources locales quand il a été attaqué près de la ville de Butembo, dans le territoire de Lubero, par des jeunes qui soupçonnaient une infiltration rebelle. La RDC encore, et cette triste nouvelle, le décès de Pierre Yantula Elengesa, alias Petit Pierre. C'était ce samedi à l'âge de 83 ans. Il était le dernier survivant de l'African Jazz, l'orchestre auteur du tube Indépendance Cha-Cha, devenu l'hymne des indépendances sur le continent africain. Un morceau mythique né à l'occasion de la table ronde de Bruxelles en janvier 1960 pour justement préparer l'indépendance de ce qui était encore à l'époque appelé le Congo belge. Sur cette perte, je vous propose d'écouter Dieudonné Yangomba, journaliste et chroniqueur musical à la télévision nationale congolaise.
Petit Pierre, je l'ai connu puisqu'il habitait mon quartier, dans cette commune de Saint-Jean, aujourd'hui Lingwala. Donc c'était pour moi aussi un père, parce qu'il m'a vu naître, il m'a vu grandir. Petit Pierre Elengesa Yantula devait être notre invité permanent à l'émission Variété musicale le dimanche 30 juin à partir de midi. On l'attendait ce jour-là, mais malheureusement, on nous a annoncé sa mort le 29 juin. Ce jour-là, Petit Pierre s'apprêtait à aller prester avec des jeunes, ces jeunes gens de l'orchestre Panelec Sound. Et voilà, il a été surpris par la mort, il a piqué une crise cardiaque. Ce fut une grande tristesse pour moi, parce que c'est une bibliothèque qui vient de partir. Il devrait raconter beaucoup de choses le dimanche sur notre plateau de Caribou Variété, et ça aurait édifié beaucoup, beaucoup de personnes sur l'African Jazz, qui était l'orchestre qui a été invité à la table ronde de Bruxelles en 1959, qui préparait bien sûr l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'époque.
Je me mets sauvage ou un paramilitulé. Petit Pierre qui s'en est donc allé samedi à la veille du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dieudonné Yangomba qui espère un hommage officiel pour l'artiste et que le gouvernement prenne en charge ses obsèques. RFI à 19h39 à Yaoundé, notre dossier du jour au Cameroun avec ce coming out qui fait des vagues, celui de King Nasty. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. Ce dimanche, la jeune artiste de 26 ans qui a entamé une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec, en légende, un message de tendresse adressé à sa compagne. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est réprimée. C'est un sujet signé Polycarpe Somba.
Sur la photo, les deux jeunes femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya malgré ses lunettes de soleil. Et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse. « Je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache. » La section commentaire en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile et parmi les multiples réactions, celle remarquée de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT plus camerounaise qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique. Elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Biya pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait peut-être, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, le journaliste et lanceur d'alerte, interpelle lui aussi les autorités dans un tweet. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison la pratique de l'homosexualité.
Et pour aller plus loin dans ce dossier, je vous propose d'écouter l'avis de Maître Alice Nkom, cette avocate militante acharnée pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Elle n'est pas restée indifférente face à la sortie de Brenda Biya et elle salue le courage de la jeune femme et voit en ce coming out un espoir pour toute la communauté LGBT du Cameroun.
Franchement, bravo Brenda, merci pour ce courage. J'espère qu'il va inspirer d'autres personnes de la communauté LGBT, du Cameroun en particulier, et du monde entier. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les parents. J'en ai entendu quelques-uns dire que si mon fils est homosexuel, je le tue, sans compter tous les autres qui, une fois outés de gré ou de force, sont chassés de la maison où le bon Dieu les a envoyés sur terre. Alors, à tous ces parents-là, je vous dis, vous avez désormais l'exemple de parents qui acceptent l'homosexualité de leur fille. Ce couple s'appelle Chantal et Paul Biya. Et quand on sait que c'est dans un pays répressif, un pays qui condamne des jeunes gens à des peines d'emprisonnement sévères pour ces rapports homosexuels présumés ou réels, eh bien, on se dit que il y a là quelque chose d'historique, il y a là quelque chose à retenir qui annonce des changements auprès du législateur qui est en même temps le papa de Brenda.
Par cette sortie, Brenda Biya fait-elle un pied de nez au pouvoir, notamment à son propre papa, le président Paul Biya?
Brenda n'a pas fait de pied de nez à personne. Brenda vit sa vie de femme, tout simplement. Elle la vit avec courage, elle la vit avec beauté d'ailleurs. Parce que moi, je les trouve magnifiques, ces deux tourtereaux qui s'embrassent. Je trouve ça formidable. Au fond, est-ce que ce n'est pas la quête de chacun d'entre nous de trouver l'amour sur son chemin? Donc, Brenda ne fait de pied de nez à personne. Je n'aimerais pas qu'on prenne ça comme ça. C'est un acte de courage de dire « je vis un grand bonheur, partagez ce bonheur avec moi ». L'amour est un droit humain, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je viens d'avoir le droit d'aimer et d'être aimée.
L'avocate maître Alice Nkom, jointe par Polycarpe Somba, qui signe ce dossier du soir, à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, il est 18h43 à Bamako. C'est ce lundi que la cour d'assises de Bamako a ouvert une session spéciale sur les crimes économiques au Mali. Pendant deux mois, ce sont plus de 180 accusés qui comparaîtront dans différentes affaires. Une session monumentale donc, même si certains dossiers ne seront pas examinés. Plus de détails avec David Baché.
L'un des dossiers les plus attendus ne sera traité que fin août, celui des ristournes dans le secteur du coton, qui concerne Bakary Togola, l'ancien président de l'Assemblée l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et 11 co-accusés. En 2021, le roi du coton avait été acquitté, une procédure en appel avait été engagée. De nombreuses autres affaires de malversation financière seront jugées. Elles concernent l'entreprise ADM, Aéroport du Mali, la Somagep, l'entreprise publique de distribution d'eau, l'INPS, l'Institut national de prévoyance sociale ou encore l'hôpital du Point G à Bamako. Deux dossiers très attendus ne sont en revanche pas au programme. Le premier concerne l'EDM, plusieurs hauts cadres de l'entreprise publique d'électricité et l'ancien ministre Sédou Lamine Traoré, en poste au début de la transition et en détention depuis janvier dernier, sont poursuivis dans des affaires de vol de générateurs et de camions-citernes. Mais l'instruction est toujours en cours, ce dossier n'est donc pas programmé, même si d'autres cas de malversation concernant l'EDM seront bien jugés. Autre grande absente, l'affaire des contrats d'équipement militaire. L'ancien premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga, mort en détention il y a 2 ans, était en prison dans le cadre de ce dossier, qui concerne également l'ancienne ministre Boiré Fili Sissoko. Incarcérée en août 2021, elle clame son innocence et réclame depuis 3 ans d'être jugée.
Explication David Bachet. Et puis un mot de la France. Au lendemain du premier tour des élections législatives anticipées, véritable raz-de-marée du Rassemblement national et de ses alliés en métropole, mais pas à l'étranger, en tout cas pas en Afrique, où dans les 9e et 10e circonscriptions des Français de l'étranger, les résultats sont bien différents. Le compte-rendu avec Frédéric Garat.
Deux circonscriptions, l'une la 9e qui va de la Libye jusqu'au Gabon en suivant le pourtour ouest africain, soit 16 pays pour 130 000 inscrits au total. Et l'autre, la 10e, qui comprend entre autres l'Afrique du Sud, le Mozambique, Madagascar, Maurice ou Djibouti, soit un total de 28 pays pour 113 000 inscrits. Dans cette dernière circonscription, les candidats qui sortent en tête du scrutin sont Elsa Di Meo pour le Nouveau Front Populaire, qui remporte 32,52% des suffrages, talonné par la candidate d'ensemble, Amédia Lacrafi, qui se voit crédité de 31,82% des voix. Troisième, le candidat d'extrême droite, Jean de Véron, qui au nom du Rassemblement National, se voit crédité de 17,16% des suffrages. Il y aura donc un second tour opposant Elsa Di Meo à Amélia Lacrafi dimanche prochain. Dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, le député sortant, Karim Bencher, a récolté 51,57% des voix, devant la candidate Renaissance Ensemble, Samira Djouadi, 15,70%, et Elodie Charon pour le RN, 10,64%. Karim Bencher avec plus de 50% des suffrages, mais pas réélu pour autant, car le quorum des inscrits n'a pas été atteint. Il y aura donc un second tour entre le Front Populaire et Ensemble, dimanche prochain, dans cette 9e circonscription.
Frédéric Gara, la France toujours, mais cette fois à l'Euro de football. La France qui se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Une victoire aux dépens de la Belgique. Succès sur le plus petit des scores. Il aura fallu attendre la 85e minute de jeu et un but de Randal Kolo Muani. Au prochain tour, les Bleus affronteront le vainqueur du match entre le Portugal et la Slovénie. Coup d'envoi dans un peu moins de 15 minutes à 19h, temps universel. Les principaux titres de ce lundi 1er juillet aux États-Unis, la Cour suprême déclare que Donald Trump est partiellement protégé des poursuites judiciaires. Elle a renvoyé aujourd'hui aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de l'ancien président américain, retardant une fois de plus la tenue de son procès fédéral à Washington. Lui s'est bel et bien rendu dans une prison fédérale du nord-est des États-Unis. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, il doit commencer à purger sa peine pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Au lendemain du premier tour des élections législatives anticipées en France, la Russie dit suivre de très près le scrutin. Déclaration ce lundi du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous attendons le second tour, mais les préférences des Français sont plus ou moins claires pour nous, a-t-il lancé après la victoire du Rassemblement national et de ses alliés. Et puis en Grèce, les violents incendies qui se sont déclarés dimanche dans la grande banlieue d'Athènes ont été maîtrisés. Le porte-parole des pompiers l'a annoncé il y a quelques heures, une nouvelle rassurante, même si les autorités grecques s'attendent à un été difficile en matière d'incendie. Notre dossier Afrique Éco du jour, direction le lac Albert qui sépare la République démocratique du Congo de l'Ouganda. C'est l'un des plus riches du monde en ressources halieutiques. Seulement la surexploitation menace le renouvellement des stocks. Alors pour la contrer, les autorités congolaises ont pris des mesures pour sauvegarder la ressource, ce qui accroît la concurrence avec les pêcheurs de l'Ouganda voisine. Et au village congolais de Kansenyi, la pêche n'est plus ce qu'elle était. Coralie Pierret s'est rendue sur les rives du lac Albert.
Une dizaine de pêcheurs hissent la pirogue jusqu'à la berge. La pêche est maigre ce matin de mai à Kasséni. Nombreux sont les résidents qui se sont tournés vers l'import-export, explique un manutentionnaire.
Comme les pêches, c'est le principal travail d'ici. Mais notre pêche d'aujourd'hui ne donne pas de poissons, tout ça. On ne sait pas s'il y a les magmas, des matériaux pour les pêches ici.
La RDC a interdit l'utilisation de certains filets à petite maille. L'objectif, lutter contre la surpêche et favoriser la reproduction des poissons. Des zones de frayeur ont aussi été délimitées. Régulièrement, les services congolais détruisent les matériaux hors normes et arrêtent les pêcheurs illégaux. Mais en face, côté ougandais, les règles sont différentes.
Les poissons viennent de l'Ouganda, car ici, au Congo, il y a beaucoup de patrouilles.
Depuis son étal, Tina détaille son commerce de vendeuse de poissons.
Il y a des gens qui pêchent en Ouganda, d'autres qui achètent et qui nous ramènent le poisson ici. Nous, les vendeuses, nous achetons en gros. Puis nous vendons au détail aux clients de Bunia, Mongwalu, Komanda, Mambasa, Beni, Ocha. Nous amenons les poissons de l'Ouganda jusqu'ici au Congo.
Résultat, la concurrence est rude et les pêcheurs congolais se retrouvent souvent sans emploi. Christophe Lonama est le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo.
Nous avons un constat amer, comme il y a baisse de production. S'il y a baisse de production, vous voyez, ça va créer maintenant le chômage. C'est ce qui n'est pas bon. Dans les années avant, les poissons de la Calvaire, on l'exportait peu partout, comme il y avait quantité. Alors maintenant, là, il y a une diminution sensible de quantité de poissons. Il y a même disparition de certaines espèces dans les lacs. Et suite au non-respect des zones de frayeur, et suite à l'usage des filets prohibés.
Le lac Albert est déjà considéré comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison de la pollution liée à la présence humaine autour du lac. Le projet pétrolier de Total sur les rives du lac côté Ouganda inquiète aussi les écologistes. Coralie Pierret, de retour de Kasséni, RFI.
Le dossier Afrique Éco à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. À suivre sur RFI Accent d'Europe et ce reportage au Royaume-Uni où, comme en France, on vote cette semaine pour les législatives. Et c'est une débâcle pour les conservateurs au pouvoir depuis 13 ans qui est annoncée, expliquée notamment par des changements de Premier ministre, par le Brexit, la hausse du coût de la vie. Et ces scandales, notamment ces fêtes organisées par Boris Johnson en plein Covid, des rassemblements justifiés bien maladroitement dans les médias.
La dernière fois que la presse avait révélé la présence de Boris Johnson à une garden party, il s'était justifié en disant qu'il ne savait pas que c'était une fête, qu'il pensait que c'était une réunion de travail en extérieur.
La chute annoncée des conservateurs et les conséquences du Brexit, c'est à écouter dans Accent d'Europe à partir de 21h10 heure de Paris et sur notre application RFI Pure Radio. Grand reportage à suivre également aux Philippines où, selon des ONG de défense des droits humains, la guerre contre la drogue a fait entre 20 et 30 000 morts. Une répression menée par l'ancien président Rodrigo Duterte qui a traumatisé l'archipel depuis 2016. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ferdinand Marcos Jr., n'a pas totalement mis fin à cette violence et protège même encore son prédécesseur malgré les désaccords. L'espoir des familles des victimes repose maintenant dans la Cour pénale internationale qui a ouvert un dossier pour crimes contre l'humanité.
Je m'appelle Salvación Ramos. J'ai 65 ans et je suis mariée. Ma fille a été tuée. C'était Cristeta Ramos. Elle était célibataire. Elle habitait avec nous, avec mes deux fils. Elle nous aidait toujours. « Maman, je vais t'aider à nettoyer les habits », disait-elle. Mais à un moment donné, elle a commencé à fréquenter des amis qui prenaient de la drogue.
Aux Philippines, la quête de justice des victimes de la guerre contre la drogue. Un grand reportage signé Nicolas Roca à écouter à partir de 19h40, temps universel sur nos antennes. Et puis, couleur tropicale, notre invitée, la chanteuse Lina Mayem, qui présente « Mon âme », son quatrième album. Elle est au micro de Christelle Yohou et Stéphane Linon. Lina Mayem est la productrice de ce nouvel album, un rôle qui lui permet de créer en toute liberté.
L'amour et le bonheur, non, on va fêter ça jusqu'à pas d'heure. Nous tout ce qu'on te souhaite, c'est aller longue vie. On prépare ça depuis des mois. Y'a tes amis et tout ta mif. Ah, allez, faut fêter ça, faut danser. Ça fait plus un. Allez, faut fêter ça, faut danser. Allez, longue vie, le succès, la santé, la monnaie. C'est tout ce qu'on te souhaite pour ton birthday. La santé, l'amour et le bonheur. Nous, on va fêter ça jusqu'à pas d'heure. Nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est. Allez,
longue vie, extrait de nouvel album de Lina Mayhem, son quatrième projet, Lina Mayhem, qui sera sur la scène du Zénith de Paris le 10 novembre prochain, 20h55 ici à Paris. Cette demi-heure d'information qui se referme. On poursuit en musique, cette fois avec le titre Spider de Gims et de Distinct.
Ba, 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 ba.
Maximum.
Ok, eh, eh, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Et je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes marquantes, je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, eh, eh, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, hi, hi, ah. Je n'ai vu que toi, ya, habibi.
On y va.
Allez, 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 allez.
Dubaï, boté, casac, plein de cash.
Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Si n'a pas l'eau, que j'ai flamme. Moi, je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami.
Ok, eh, eh, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, hi, hi, ah. Je n'ai vu que toi, ya habibi.
On y va.
Allez, 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 allez. Chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt. Oh, oh, la vie par la cité, elle va chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, oh, oh, chambouler leur intérêt.
RFI, la radio du monde.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi se sent-on incompris ? Comment reprendre confiance en soi et aller vers les autres ?
Mercredi.
Comment changer le regard sur le bégaiement ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Polygamie, de l'intimité des foyers au sommet de l'État, comment les femmes en parlent?
Mercredi.
Apprendre à nager, comment rendre accessible ce savoir essentiel de sécurité publique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.